Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 décembre 2021. On se rapproche tout doucement de Noël. Et pour être franc, ce matin, quand j'ai lu les nouvelles de la nuit, quand j'ai fait peser le pour et le contre de la séance d'hier, je me suis demandé si j'allais pas reprendre la vidéo de la veille. Pour voir, pour faire un copier-coller simplement parce que globalement j'ai un peu l'impression qu'on se répète un tout petit peu, mais je me suis dit que si je vous refaisais la même vidéo exactement, ça allait se voir un peu, donc j'ai recommencé, on recommence à zéro, on reprend les mêmes thèmes, on refait le point pour voir où on en est et où est-ce qu'on va, mais où est-ce qu'on va, c'est difficile à donner une réponse très claire puisque visiblement la seule chose que l'on pourra voir ou éclairer, qui pourra éventuellement éclairer notre chemin, eh bien, c'est le discours de Monsieur Powell en fin de journée, ce soir. Donc oui, on prend les mêmes et on recommence, hein. C'est assez simple. Hier, il y a eu les chiffres du PPI aux États-Unis, donc le Producer Price Index. Donc c'est un peu le côté ce que ça coûte réellement au producteur de créer un produit. Et de nouveau, un peu à l'image du CPI vendredi dernier, et le chiffre a littéralement explosé. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on panique de nouveau sur la thématique de l'inflation, puisque forcément, ce chiffre qui sort le mardi, alors que le meeting de la Fed a déjà commencé et qu'ils sont déjà en train de se demander ce qu'ils vont faire avec les taux et avec le tapering, eh bien forcément ça a mis la pression sur le marché. Donc on a repris un peu la même thématique, on a de nouveau tapé sur bien évidemment la tech et on se pose la question de savoir si par hasard il n'y a pas simplement une perte de confiance et les gens seraient en train de sortir de la technologie parce que forcément une crainte de hausse des taux ce serait pas une bonne nouvelle pour la tech et tout le monde se dit ne serait-ce pas mieux de vendre toutes mes actions technologiques pour aller me planquer dans le 10 ans américain. Alors oui, c'est un peu la réaction classique des marchés. Vous avez les taux qui devraient éventuellement peut-être remonter, enfin, on ne sait pas exactement quand, mais on risque d'en parler ce soir. Donc du coup, si les taux remontent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sort des assets risqués pour aller se planquer sur les assets pas risqués. Ce qui veut dire, en gros, c'est que vous avez des actions technologiques risquées et vous allez toutes les vendre aujourd'hui. Simplement parce qu'après du coup c'est super intéressant d'aller vous planquer sur le 10 ans américain où vous allez quand même avoir un rendement de 1,44% aux dernières nouvelles. 1,44% de rendement sur le 10 ans, mais c'est méga sexy! C'est méga sexy, le Nasdaq il a fait 20% rien que cette année, enfin sur les 12 derniers mois, 20% de hausse sur le Nasdaq. Mais oui, on préfère nettement vendre nos titres techno pour aller se planquer sur le 10 ans. Ça me paraît vachement une réaction saine, logique et rationnelle avec 12 heures de l'annonce de la Fed. Donc en gros, pour l'instant, on a tous nos théories. Hein. Forcément, les taux vont remonter. Donc si les taux remontent, je vends la tech, je vais me planquer. Donc c'est une vision à 45 minutes. Allez, une vision à 2 jours, puisque ce soir, on va devoir analyser ce que Monsieur Powell va dire. Et puis demain, on va pouvoir y réfléchir. Et vendredi, on prendra peut-être une décision. Et puis lundi prochain, on parlera déjà d'autres choses. Les fêtes de Noël par exemple, mais en tout cas pour l'instant on est concentré sur cette thématique de l'inflation et sérieusement les gens sont en train de se dire oui là je prends une décision pour le long terme, je vais acheter des taux à la place des actions technologiques. Et d'ailleurs c'est la même question qu'on se pose sur les crypto-monnaies. Alors les gens sont en train de se dire, d'ailleurs il y avait un analyste qui écrivait hier sur je sais plus quel site internet comme quoi il était temps de vendre des crypto-monnaies, les crypto-monnaies étant très stressées par le fait que la Fed pourrait monter les taux. Oui, parce que pareil, même réaction que le Nasdaq, vous étiez sur des assets risqués, les crypto-monnaies, et donc maintenant les crypto-traders, ils vont vendre leur Bitcoin, leur Dogecoin, leur Shiba Inu, leur Polkadot, pour aller se planquer sur le 10 ans américain, avec 1,44% de rendement par année. C'est génial, non? C'est génial, les gars, ils vont vraiment faire ça, ils sont tous en train de faire de la crypto en pensant qu'ils vont être milliardaires à la fin de l'année, mais non, non, là tout de suite, à cause de l'éventuelle hausse des taux, eh bien, on va aller se planquer, eh bien, sur le 10 ans américain parce que ça a l'air vachement mieux quand même. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de sortir de ces assets risqués? Alors il y avait un article qui était publié ce matin sur le fait que les gens sont en train de vendre les titres technologiques. D'ailleurs on le voit très bien sur le Nasdaq et la grande question c'est que pour l'instant on est en train de titiller la moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq. Donc ceci veut dire, selon les experts, que nous sommes en train de perdre confiance sur la technologie et sur les titres technologiques. Et ben, d'ailleurs regardez le graphique du Nasdaq, quand vous voyez voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez les boules rouges que je vous ai mis sur le graphique. Eh bien, c'est à chaque fois qu'on a perdu confiance sur la moyenne mobile des 50 jours. Alors, effectivement, on a perdu confiance, on a cassé la moyenne mobile, boum, et puis après, on est remonté. Et puis, comme par hasard, on est quasiment au plus haut de tous les temps. Donc, la confiance, là, c'est vraiment une notion très court-termiste dans les marchés pour l'instant. Donc voilà, hier il fallait trouver une excuse pour vendre les assets risqués, donc on s'est dit on va utiliser la thématique de l'inflation. Alors la thématique de l'inflation, on en a déjà parlé et reparlé, qu'est-ce qui pourrait se passer ce soir ? La question, c'est le degré de hawkishness de Monsieur Powell. Alors, on savait à l'époque que Monsieur Powell était dovish, hein. Donc, dovish, c'est la colombe. C'est les mecs qui sont plutôt pour ne pas monter les taux et soutenir l'économie et les marchés financiers. Et puis, les hawkish, c'est les faucons qui, eux, sont plutôt pour monter les taux, freiner l'économie avant qu'elle nous échappe. Alors, du coup, on a vu ces derniers temps que Monsieur Powell est en train de, hop, tourner la veste et puis passer de l'autre côté. Et donc, maintenant, il est en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que je me montre un tout petit peu au quiche, ou beaucoup au quiche, ou très très beaucoup au quiche? Et donc, c'est un petit peu ce qu'on attend de voir. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce que les experts attendent, eh bien, normalement, si on se trompe pas, et on devrait avoir une accélération de tapering, le tapering qui se termine, devrait se terminer autour de mars-avril 2022. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, ils vont arrêter de racheter des obligations, donc d'injecter indirectement de l'argent dans l'économie. Et là, à partir de là, on pourra commencer à dire maintenant qu'ils ont fini le tapering, ils vont pouvoir envisager une hausse des taux. Alors, les spécialistes, là encore, parient sur 3 hausses de taux. On parle de 0,75% de rendement sur les Fed Funds d'ici la fin de l'année 2022. Tout ça au conditionnel, avec des guillemets et des si un peu partout, parce qu'on n'en sait foutrement rien, on n'a aucune visibilité, et on reste de toute façon hyper préoccupé par ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour du Covid et du variant Omicron. Oui, parce que ça, c'est l'autre sujet du jour. L'autre préoccupation et l'autre stress qu'on a aujourd'hui, eh bien, évidemment, c'est le variant Omicron. On continue toujours et encore, hein, donc c'est un énorme stress. Comme je le disais déjà hier, c'est vraiment un énorme stress politique, puisque tout le monde est en train de paniquer, de s'inquiéter sur le sujet, alors que pour l'instant, il n'y a pas forcément de conséquences, on va dire, médicales strictes. Alors, il y aura peut-être plus de monde dans les hôpitaux, ça, on n'en sait rien. Visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences sur la vie. Il y a eu un mort enregistré grâce, ou à cause plutôt, du variant Omicron ces dernières semaines, un mort sur la planète entière. Il y a des contaminations qui sont monstrueuses. Apparemment, le variant est effectivement très facile à se transmettre. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir des chiffres, parce que quand vous regardez un petit peu les chiffres d'il y a 24 heures et les chiffres d'aujourd'hui, ça passe de 50 000 à 200 000 contaminations par jour. Mais on ne sait même plus si c'est en Angleterre, si c'est dans le monde entier. C'est un bordel total au niveau des chiffres de Omicron. Mais en tout cas, sachons quand même que c'est quelque chose qui nous pèse sur la tête et qui nous angoisse profondément. À noter que les Chinois ont découvert un cas de Omicron aujourd'hui. Enfin hier soir, donc du coup ça va mettre aussi un peu de stress là-dessus. Mais bref, visiblement c'est en train de se spreader à toute vitesse et c'est une grande préoccupation de savoir quelles en seront les conséquences. Encore une fois, et si ce n'était pas si grave ? Trois petites choses encore à ajouter. Tout d'abord, Tesla, comme tous les jours, alors le titre a perdu 25% depuis les plus hauts de tous les temps. On a vu que Monsieur Musk a vendu, et apparemment il continue encore de vendre. Si on en croit les derniers articles du Barron, c'est ben il a encore un paquet d'options à exercer, donc qui pourrait signifier qu'il va encore vendre. Donc pour l'instant, le titre est en baisse de 25%, et si on regarde le chart que vous voyez à l'écran à l'instant, eh bien ce chart, on voit très bien la hausse qui nous a emmené au plus haut de tous les temps. Eh bien c'est dû au contrat qui a été signé, qui aurait dû être signé avec Hertz, parce que so far, j'ai pas encore vu à aucun endroit le fait qu'il a vraiment été signé pour terminer. Vous savez, ces fameuses 100 000 voitures pour 4 milliards et des poussières qui avaient fait monter la market cap de 300 milliards. Eh bien, la market cap de 300 milliards qu'on avait fait monter à cause de cette histoire de Hertz, eh bien, finalement, retour à la case départ, plus ou moins, et les gens se posent des questions sur la suite. Et il y a une inquiétude qui vient quand même gentiment là derrière. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois, hein, c'est finalement, on est en train de pricer le fait que Tesla sont les seuls au monde à faire des voitures électriques, et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui arrivent gentiment aussi avec des voitures électriques. Alors, il y a les nouveaux, hein, il y a Rivian, il y a Lucid, Et j'en passe et des meilleurs qui sont derrière. Il y a Fisker qui sont tous là avec des voitures électriques qui vont concurrencer Tesla d'une manière ou d'une autre sur le business électrique. Il y a Volkswagen qui est aujourd'hui le plus gros vendeur de voitures électriques au monde. Et là, il y a Toyota qui vient d'annoncer qu'ils sont en train de faire un push majeur sur le secteur voiture électrique, qui présente leur nouveau pick-up. Vous savez que les Américains sont friands de pick-up. On a vu la semaine dernière la présentation du F-150 chez Ford, du nouveau pick-up chez Toyota. Tout ça, c'est des parts de marché qui vont poser problème à Tesla quand même à moyen terme, parce que c'est pas avec leur merde de pick-up immonde qu'ils vont pouvoir rivaliser avec les pick-up classiques américains. Alors oui, il y aura certainement des guignols qui vont acheter cette monstruosité qui pour l'instant n'est même pas homologable parce qu'elle a pas de pare-choc, parce que les phares sont pas au bon endroit, blablabla, mais peu importe, il va y avoir quand même de la concurrence, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, puisque je rappelle quand même qu'aujourd'hui il y a une partie du pricing de Tesla qui parie sur le fait qu'ils vont vendre à peu près 30 millions de voitures à horizon 2030 par année, alors qu'aujourd'hui, si on fait le calcul, normalement en 2030 on devrait vendre autour de 28 millions de voitures, toutes marques confondues. Donc il y a quand même un petit truc qui tire un petit peu dans les coins ici. On voit que Musk vend des actions massivement. Alors les détracteurs ou les pros Tesla diront oui, mais il vend simplement parce qu'il doit payer ses impôts, c'est clair, mais quand même il y a un petit stress qui est en train de se monter, et techniquement, eh bien, on est à des niveaux assez critiques sur Tesla, et visiblement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles qui arrivent pour Tesla, puisque la concurrence est là. On notera aussi au passage qu'il a autorisé dorénavant que Tesla va accepter le Dogecoin comme monnaie pour acheter des trucs chez eux. Donc, il achète une monnaie qui n'a aucune valeur réelle et qui est basée sur un joke, je le rappelle encore une fois. L'annonce qu'il a faite hier a fait prendre 30% au Dogecoin, et puis ça tombe bien parce que il en a. Puisqu'on parle des crypto-monnaies, on notera aussi à tout hasard que hier il y a eu comme un bug sur la plateforme Coinbase, et du coup il y a des valorisations qui sont apparues sur le marché des crypto-monnaies qui étaient complètement délirantes. Quand je dis complètement délirantes, c'est que la plupart des gens qui avaient des cryptos se sont retrouvés multimilliardaires, parce que les prix ont été montés à 770 milliards sur le prix du Bitcoin. Bref, il y a eu des explosions dans tous les sens et il y a plein de chiffres qui sont montrés. D'ailleurs, vous voyez un exemple de prix et d'augmentation, de pourcentage d'augmentation. Il y a tellement de chiffres qu'on n'arrive plus à savoir si c'est des milliards ou des milliards de milliards. Enfin, il y a plein de gens qui se sont trouvés quadribillionnaires, durant quelques minutes. Il n'y a pas eu d'échange à ce prix-là, mais visiblement, il y a eu comme un petit bug de ce côté-là. Donc, ils sont en train de corriger le tir, mais il y a eu un petit peu un shake-up au milieu des crypto-monnaies, mais rien de concret. On notera aujourd'hui que le 15 décembre, c'est le jour où ils doivent trouver normalement un accord pour remonter le plafond de la dette. Alors, on se souvient qu'ils avaient botté en touche. A priori, c'est en train d'être voté, ça va être packagé. Donc encore une fois, comme d'habitude, on s'est fait up and down, on s'est fait le grand 8 pendant plusieurs jours à cause de ces histoires de plafond de la dette, et encore une fois, comme d'habitude, au bout du suspense, ils trouvent une solution. Donc il n'y a rien de neuf, hein. Ça fait plusieurs années qu'on nous gonfle avec cette histoire de plafond de la dette, et ça fait plusieurs années qu'on nous fait le même coup à chaque fois, et ça fait plusieurs années qu'on tombe dans le panneau à chaque fois. Donc eh bien, on se retrouve dans une année pour la même discussion. Et puis, petit détour par le pétrole qui revient. Hein, il était bien disposé pour repartir en direction des 80. Et puis, depuis quelques jours, ça lâche de nouveau. Alors, que des commentaires négatifs à cause du variant Omicron. Parce que oui, forcément, nous n'allons plus voyager. Nous n'allons plus consommer. Tout se referme à nouveau sur ce variant dont on ne sait rien. Et on ne sait pas vraiment quelles en seront les conséquences. Hier, l'EIA, donc l'Agence pour l'énergie, a plus ou moins annoncé que le pétrole pourrait souffrir de l'arrivée d'Omicron. Parce que ça allait forcément créer des ralentissements. Donc là aussi, un conditionnel, on n'en sait rien, mais dans le doute, eh bien, on le raconte quand même. Donc voilà, et le pétrole rebaissait un petit peu hier à cause des commentaires de l'EIA qui fait que l'Omicron pourrait empêcher le recovery du pétrole. Et la question du jour, c'est la suivante. Pourriez-vous expliquer les implications d'acheter un titre sur le marché US contre le marché canadien si l'entreprise est canadienne? Il semblerait qu'il y ait plus de liquidité sur le marché US, mais j'ai du mal à comprendre s'il est plus intéressant d'acheter sur le marché US ou si cela ne change pas grand-chose au final. Il faut juste regarder de quel titre on parle. En général, vous avez certains titres qui sont des équivalents, c'est-à-dire qui se traitent sur différents marchés, mais c'est le même titre. Quelque part, vous pouvez l'acheter au Canada, le vendre aux États-Unis, puis le revendre en Allemagne derrière. Des fois, c'est des titres qui sont des certificats qui représentent le titre traité localement, donc c'est pas aussi fongible l'un que l'autre. Par contre, en gros, si vous faites de l'investissement et que vous n'êtes pas en train d'essayer d'envisager le takeover sur la société, et puis que vous voulez absolument obtenir les droits de vote, eh bien, c'est assez égal. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez acheter une SAP, par exemple, en Allemagne ou bien aux États-Unis, le comportement du titre sera plus ou moins le même en termes de pourcentage. Donc, ça veut dire que si vous achetez SAP et qu'elle double dans les 12 mois, eh bien, vous aurez fait 100% de performance, que ce soit en dollars ou en euros. Après, ça dépendra comment est votre portefeuille. Donc, si vous gagnez votre vie et vous vivez en Europe, eh bien, vous serez plus intéressé par l'euro pour ne pas avoir une conversion par rapport au dollar. Et puis aussi, l'autre truc qui est très très important, et je le dis et je le répète depuis bientôt plus d'une année ici, c'est la liquidité. Même si la société est canadienne, même si le siège de la société est au Canada, s'il y a plus de volume aux États-Unis, eh bien, je préfère quand même traiter sur des marchés où il y a du volume, parce que des fois, vous avez très peu de liquidité. Alors, c'est clair que si c'est pour acheter 100 pièces, ça va pas changer grand-chose, mais plus il y a de liquidité, plus les spreads, donc l'écart entre l'offre et la demande se réduit, et donc c'est plus facile à traiter, vous payez moins cher et vous avez moins de risques, justement, sur cet écart entre l'offre et la demande. Alors, s'il y a moins de liquidité, l'écart s'augmente, donc du coup, vous payez plus cher. Si vous revendez, bah, l'écart est plus grand aussi et c'est difficile de ressortir. Et c'est encore plus valable évidemment pour les grosses positions. Alors là, si vous avez des grosses positions, vous n'avez pas le choix, il faut aller sur les marchés les plus liquides. Donc comparez les volumes entre les deux et puis prenez votre décision par rapport à ça. Mais généralement, franchement, j'ai envie de dire, à moins que ce soit dans des cas très spéciaux et que vous soyez un méga hedge fund, je pense que vous pouvez vous dire que c'est pas si important que ça à la fin. Voilà, j'ai beaucoup causé pour pas dire grand-chose aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on est toujours stressé par l'inflation, mais on en saura plus ce soir. On attend la décision de la Fed tout à l'heure pour savoir comment sera le tapering, comment seront les hausses des taux, avoir un peu de visibilité pour 2022. On attend toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce foutu variant Omicron. En gros, same player, shoot again. On prend les mêmes histoires encore et encore. Et puis, comme d'habitude, eh bien oui, on parle de Tesla. Donc, on attend la nouvelle de la journée sur Tesla. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, à liker cette vidéo et puis à revenir demain pour une nouvelle émission du Morning Bull Live. Passez une très belle journée. Bye bye.